Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jacques Payot, qui est chirurgien urologue. Et aujourd'hui, il va évoquer pour nous les différentes lithiases. Docteur Jacques Payot, bonjour.
Bonjour Christiane.
Alors, lithiase, d'abord, que signifie ce terme ?
Le mot lithiase veut dire pierre en grec, lithos, la pierre. Donc ça représente tous les calculs urinaires. Les calculs urinaires, ce sont les calculs qui se forment.
Parce qu'il y a autre chose que des calculs urinaires.
Oui, il y a les calculs de la vésicule biliaire, par exemple, mais qui sont des calculs d'une toute autre nature, qui ne sont pas vraiment des pierres, bien que ce soit des calculs qui sont durs à la coupe, ce sont des calculs plutôt de cholestérol.
Ah oui.
Alors que les calculs urinaires, pour la plupart, sont des calculs à base de calcium, c'est-à-dire formant du calcaire et formant une vraie pierre,
oui.
Comme on connaît ça
c'est
en Beauce.
C'est pas ça qu'on appelle la maladie de la pierre. C'est pas
alors,
pareil.
Si, c'est ce qu'avait Montaigne, c'était
voilà.
La maladie de la pierre.
Il pouvait pas et sur alors, son cheval.
Ce qu'on appelait la maladie de la pierre à l'époque, c'était soit les coliques néphrétiques, c'est-à-dire les lithiases d'origine rénale qui sont en train de migrer, qui bloquent le rein et qui provoquent des douleurs épouvantables, soit c'est une deuxième maladie, c'est la maladie de la pierre de la vessie. Et ce sont des pierres qui se forment dans la vessie et habituellement des pierres provoquées par la présence de la prostate pathologique, prostate malade.
Il n'y a que pour les hommes cette...
Alors cette maladie de la pierre touche essentiellement les hommes parce qu'il est exceptionnel qu'une femme ait un rétrécissement sur le canal de l'urètre, c'est-à-dire le canal de sortie de la vessie. Ça peut arriver, mais c'est tout à fait exceptionnel. Alors que les hommes, eux, ils ont tous une prostate et ils risquent tous d'avoir un petit problème avec leur prostate un jour ou l'autre, à partir souvent de la cinquantaine.
Ah oui, c'est
et donc une des formes, un des symptômes de la prostate peut être la formation d'une lithiase, d'un calcul dans la vessie. Calcul que l'on va éradiquer d'une manière ou d'une autre parce que ça le gêne, mais en même temps, il faut traiter la cause de cette lithiase qui est la prostate.
Donc là, nous revenons aux oxalocalciques, c'est bien ça?
Les oxalocalciques, oui, vous l'avez très bien dit, Christiane. Ça ressemble à un gros mot. Oui, les calculs d'oxalate de calcium, qu'on appelle les oxalocalciques, qui sont de deux formes, les formes monohydratées, les formes dihydratées. Là, je rentre dans des questions très spécialisées, mais qui ont une importance pour nous parce que les formes, selon qu'elles sont mono ou dihydratées, sont plus ou moins friables. Et un calcul qui est friable est accessible aux ondes de choc, c'est-à-dire à la lithotricie que l'on peut faire in situ, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, et ou lithotricie que l'on peut faire en extracorporel avec des machines qui cassent les calculs sans faire d'ouverture. Alors qu'est-ce que veut dire lithotricie ? Eh bien, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, lithos, la pierre, et tricie, cassé.
Voilà.
Cassé, donc on revient encore une fois au grec, toujours en matière de lithiase urinaire. Donc la plupart des lithiases urinaires se forment au niveau du rein et non pas au niveau de la vessie, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'une lithiase se forme au niveau de la vessie, il faut qu'il ait un obstacle sous-jacent qui est habituellement la prostate. Donc l'immense majorité des calculs se forment au niveau des reins et quand ce sont des petits calculs, ces calculs vont migrer dans l'urètre, c'est-à-dire le canal qui va du rein à la vessie. Ils vont se coincer dans cette urètre et ils vont entraîner une distension et un blocage brutal sur le rein. Et c'est la colique néphrétique, la fameuse colique néphrétique, la coluse frénétique dont parlait Coluche, à juste raison, car c'est une colique où le mot colique veut dire douleur en médecine. Donc c'est une colique qui est réellement extrêmement douloureuse. Et qui est frénétique parce que pour se calmer, on n'a qu'une envie, c'est de bouger, d'essayer de marcher, de courir.
Ah bon ?
C'est une réaction réflexe par opposition à la colique hépatique, c'est-à-dire la colique provoquée par le calcul de la vésicule biliaire, qui elle va déclencher une douleur au cours de laquelle le patient va rester un petit peu amorphe, il va supporter sa douleur sans trop bouger. Et donc, rien qu'à voir le patient, on peut savoir si c'est une colique néphrétique frénétique ou bien une colique hépatique.
Alors moi, je ne savais pas du tout qu'on disait frénétique, je croyais que c'était pour rire.
Ah oui, non, ça c'est Coluche qui a introduit
ça. Oui, mais je croyais essentiellement que c'était pour rire, quoi.
Eh bien non, il avait tout à fait raison.
Donc le diagnostic est facile à dire quand...
Oui, habituellement c'est facile puisque c'est une douleur qui est bien latéralisée, qui est dans le flanc, qui démarre dans le dos, qui court dans le flanc puis dans l'abdomen, mais toujours d'un seul côté. Mmh. C'est une douleur qui irradie vers la cuisse et le simple interrogatoire et la simple vision du patient qui se frétille sur sa chaise vous explique bien que c'est une colique néphrétique. Alors le problème, une fois qu'on a fait le diagnostic de la colique néphrétique, c'est de traiter le patient. Alors bien sûr, lui, il demande qu'une seule chose, c'est qu'on calme sa douleur. Donc on va lui donner immédiatement des calmants de la douleur, plus ou moins forts, en évitant absolument les médicaments à base de morphine, qui vont évidemment calmer la douleur, mais qui ont l'immense inconvénient, en matière de colique néphrétique, d'entraîner un petit spasme des fibres musculaires qui entourent, qui constituent les parois de l'urtère, là où est bloquée la lithiase. Et si on donne de la morphine à ce patient, bien sûr, on va lui calmer sa douleur, mais en même temps, on va entraîner ce spasme sur la lithiase, et donc on va contribuer à bloquer la lithiase dans l'urtère, et donc à l'empêcher de migrer. Oui. Or, tout ce qu'on veut, nous, c'est faire migrer cette lithiase. Or, on sait que en moyenne, statistiquement, 7 lithiases sur 10 vont s'éliminer spontanément ou avec l'aide d'un petit médicament.
Ah oui.
Donc ces médicaments sont des médicaments qui vont bien sûr calmer la douleur d'un côté, mais qui vont aussi détendre les parois musculaires du canal de l'urtère. Donc ces médicaments sont des anti-inflammatoires et certains médicaments aussi qu'on utilise pour la prostate et qui ont un effet antispasmodique sur l'urtère. Et donc le calcul a tendance à descendre, à condition qu'il ne soit pas trop gros et à condition qu'il ne soit pas spiculé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'épine sur le calcul, que le calcul soit bien lisse. Et là, si ce sont des calculs qui font 3-4 mm de diamètre, ils vont passer à raison de 7 à 8 chances sur 10, de manière très rapide, une fois qu'est passée la crise douloureuse.
Mais alors comment on voit s'ils sont lisses ou pas ?
Ben quand on récupère le calcul,
oui,
non, ça se voit à la radio.
Avant.
Si, si, on le devine à la radio, à la façon dont se présente le calcul. On voit souvent qu'il y a des petits spicules.
Oui, et à ce moment-là, on opère alors.
Non, non, pas forcément. Non. Il y a quand même un bon nombre de calculs spiculés qui vont se décrocher et qui vont passer tout seul. Donc l'immense majorité des calculs n'est pas opérée. On n'y touche pas. On donne un petit médicament, on calme la douleur et puis on attend que ça se passe.
Mais pas à l'hôpital. Les gens rentrent chez eux.
Oui, les gens rentrent chez eux. Là, on les garde pendant quelques heures, on leur calme la douleur et puis ensuite, si on voit que le calcul est petit, si, surtout s'il est lisse et si le rein n'est pas complètement bloqué, on va laisser partir le patient avec des médicaments et en lui disant de faire des petites prières pour que le calcul passe rapidement et on lui demande de filtrer ses urines parce que les douleurs vont disparaître et on ne saura pas si le calcul est sorti ou pas.
Est-ce que ça peut être donc, gros comment ?
C'est gros comme une petite lentille, enfin, c'est petit.
Ah oui.
Donc il faut qu'il filtre ses urines. Et alors bien entendu, il va éliminer sa lithiase justement lors d'une miction qu'il n'a pas filtrée. Donc on sera obligé après de faire des examens pour être absolument sûr que la lithiase s'est éliminée. Alors quand est-ce qu'on opère ces calculs ? Bien quand le rein est bloqué et reste bloqué.
Bloqué, ça veut
dire ? Bloqué, c'est-à-dire que l'urine ne passe plus du tout. Donc le rein ne fait plus sa fonction. Et à ce moment-là, il y a un risque que le rein ne se dévitalise un jour ou l'autre, du fait qu'il ne fonctionne plus, il peut se détruire.
Mais rapidement ?
Non, ça va se faire sur plusieurs semaines, mais le problème c'est que une fois que les premières douleurs sont passées, et moi je vois ça souvent en Afrique, les gens sont contents, ils n'ont plus mal.
Oui.
Alors il leur reste parfois un petit endolorissement, et puis surtout en Afrique, on s'accommode très bien à un endolorissement, et donc ils vont repartir chez eux, et ils ne vont pas revenir consulter, on ne va pas vérifier si le calcul est parti. Or, il arrive parfois que le calcul ne soit pas parti, que le rein reste bloqué, que le patient n'ait plus mal, et qu'on le retrouve 6 mois après avec un rein détruit. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est à l'opérer. Mais là, non seulement on enlève le calcul, mais on enlève le rein s'il est complètement détruit. Alors heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, mais enfin, c'est le risque. Et puis le deuxième risque de la lithiase négligée, c'est l'infection. Lorsque le rein est bloqué, l'urine est stagnante dans le rein. Or, l'urine, c'est un vrai bouillon de culture. Et dès qu'un petit microbe va se loger là-dedans, eh bien, il va détruire le rein par infection.
Ah oui. Donc ça peut être très grave en fait.
Oui, c'est, il faut s'en occuper sérieusement et pas seulement à cause de la douleur.
Oui, c'est ça. Ouais. Même la douleur partie, il faut quand même être vigilant.
Oui, il faut s'assurer que le calcul est fichu le camp.
C'est ça.
Et que le rein a repris son fonctionnement normal.
Ouais. Donc pour ça, il faut vraiment passer pour voir...
Eh bien, on fait une radio avec une échographie, et puis on demande au patient, s'il n'a plus mal, de refaire un contrôle un mois plus tard, et on s'assure que le calcul a disparu.
Très bien. Alors, deuxième type.
Alors, le deuxième type, ce sont les... Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, les phosphates de calcium, c'est un petit peu la même chose. Ils se présentent un peu comme les calculs oxalocalciques, mais leur traitement va souvent être facilité par le fait qu'ils sont beaucoup plus friables et donc beaucoup plus facilement accessibles aux machines à casser les calculs.
Alors, quand vous dites machine à casser les calculs, est-ce que c'est cette fameuse baignoire dont on parle ?
Alors, c'était la baignoire au tout début, qui était apparue dans les années 85. C'était une baignoire qui était d'origine allemande, qui avait été installée la toute première en France à l'hôpital Necker. Et donc, on envoyait nos patients là-bas. C'était tout un protocole très compliqué parce qu'il fallait faire une anesthésie, tremper le patient dans la baignoire parce que les ondes de choc passaient n'étaient efficaces que quand elles passaient à travers l'onde salvatrice.
Oui.
Donc c'était hyper compliqué, mais heureusement les ingénieurs ont fait des progrès absolument considérables. Maintenant sont devenus des machines qui sont d'assez petite taille, une table sur laquelle on s'allonge, une grosse bulle que l'on vient plaquer contre le rein du patient, et cette bulle va délivrer des ondes de choc avec encore beaucoup plus d'efficacité que ne le faisait la vieille baignoire que nous avions connue au début. Et grâce à cette machine, on arrive à traiter un grand nombre de lithiases rénales. Mais ça ne traite pas bien les lithiases de l'urtère parce qu'on a du mal à bien les visualiser et on a du mal à faire passer les ondes de choc sur les lithiases de l'urtère. Ces lithiases de l'urtère, elles sont beaucoup plus facilement accessibles à l'urétéroscopie. L'urétéroscopie, c'était aussi quelque chose que je ne connaissais pas pendant mes études. Ça consiste à utiliser une très 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 longue aiguille à tricoter qui est munie d'un optique et dans laquelle on peut passer des instruments extrêmement fins, soit des pinces, soit même des ultrasons qui vont casser le calcul. Et donc cette urétéroscopie au début a été très décriée et elle nous a beaucoup angoissés parce qu'on craignait de casser les urtères,
oui.
Évidemment, de détruire, d'être primum non macéré, d'abord de ne pas trop abîmer notre patient. Et puis on s'est aperçu qu'avec l'expérience que on pouvait très facilement monter cet appareil dans l'urtère en préparant celui-ci et que c'était tout à fait acceptable.
Eh bien, un grand merci. Le temps passe trop vite, mais nous serons très heureux de vous retrouver dans un mois. Et je vous remercie beaucoup, docteur Jacques Payot. Je souhaite que nos auditeurs nous retrouvent sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.